Alors voilà déjà la dernière séance de cette année. Aujourd'hui, Madame Moreno va nous parler de la des liens littérature et politique à la Renaissance. Elle a étudié aux facultés Notre-Dame. Non, elle a enseigné aux facultés Notre-Dame de la Paix et est pour l'instant chargée de cours en langue et littérature italienne à l'Université de Liège. Elle est spécialiste de Francesco Guicciardini, et qui est un penseur qui a vécu en même temps que Machiavel et qui a aussi une pensée politique importante. Elle s'occupe notamment d'éditer les lettres de ce penseur. Il y en a plus de 6000 et elles sont presque toutes inédites. Et elle a écrit 6 ouvrages dont la majorité sont sur cet auteur et en tout cas qui sont tous liés à cette époque de la Renaissance. Je lui laisse immédiatement la parole.
Tout d'abord, merci à Mme Staquet pour cette présentation. Merci d'être venus si nombreux. Je sais que c'est la dernière séance et donc je vous suis d'autant plus reconnaissante de votre hospitalité et de votre présence ici. Comme Mme Staquet vous l'a dit, je suis italienne et je suis spécialiste de la littérature italienne. Donc vous me pardonnerez si je citerai des auteurs italiens en majorité, mais pas seulement. Je voudrais vous emmener avec moi à travers un parcours qui touche 3 grandes personnalités de la Renaissance. Donc à travers un parcours qui touche 3 grands auteurs de la Renaissance, où ce qui m'intéresse surtout, c'est le lien entre cette époque qui peut apparaître aussi lointaine à l'égard de notre postmodernité, mais aussi le lien entre politique et littérature qui, pour moi, est un lien essentiel, important. Ceci est vrai pour la Renaissance, mais ceci est vrai de nos jours aussi. Nous vivons dans une période de crise, la crise de l'État national, le déclin de la souveraineté classique et du principe de territorialité du pouvoir, la mise en discussion du principe même de citoyenneté et l'émergence de nouveaux pouvoirs supranationaux, les sociétés multinationales, rouvrent un débat qui nous semble nouveau, qui nous semble si spécifique de notre époque, mais qui pourtant couve depuis quelques siècles et qui concerne les raisons intrinsèques du pouvoir et les règles de coexistence. Il n'est donc pas difficile pour moi de rappeler que ces angoisses, ces débats qui nous concernent de si près, furent aussi propres aux hommes de la Renaissance. Je vais faire un simple exemple. La séquence liberté-démocratie et par conséquent excès de liberté, désordre social, lutte incontrôlée des factions et des intérêts, crise des institutions et risque de perte de liberté, puis tyrannie, que nous pouvons appeler césarisme ou bien bonapartisme, cette séquence, disais-je, peut paraître dans l'émotion de notre présent facile à comprendre et d'une actualité brûlante. Et en effet, en réalité, c'est le paradigme classique que les humanistes ont ressuscité de l'éloquence antique et qu'ils ont vécu à nouveau, entre le XVe et le XVIe siècle, en l'adaptant à une ère de changement profond, de désordre social, moral et politique qui annonçait à leurs yeux un déclin lent et inexorable. Je voudrais attirer votre attention sur le caractère particulier de l'Italie à cette période, l'Italie à la Renaissance. Elle est caractérisée par une multitude d'États qui parfois ont l'étendue de villes et où plusieurs formes de pouvoir politique se côtoient. D'une part, des entités supranationales comme l'Empire et la Papauté. D'autre part, des entités politiques très limitées du point de vue du territoire et qui peuvent avoir la forme de république. C'est le cas par exemple de Florence et de Venise, mais aussi de monarchie plus ou moins grande, plus ou moins étendue. On va par exemple de la monarchie qui intéresse toute l'Italie du Sud, y compris la Sicile, à des villes-États, comme par exemple Ferrare ou bien Vérone, qui constituent des petites principautés. Donc une multitude de réalités politiques, une multitude de villes dans lesquelles sont réunies les conditions d'une véritable expérimentation politique qui intéresse tout le territoire italien pendant les XIVe et XVe siècles. C'est aussi une situation extrêmement mouvante dans laquelle le système des alliances ou bien des oppositions, des guerres est très variable et dans lequel l'idée d'un État établi à jamais et depuis toujours ne s'applique pas, n'est pas possible, puisque les changements sont soudains, les changements sont fréquents, et que même les classes dirigeantes qui animent donc ces villes sont des classes dirigeantes composées pour l'essentiel par de riches marchands, qui sont tout le temps projetées dans l'action, pour lesquelles donc le changement, l'action, le fait d'entreprendre constitue une raison de vie et aussi l'essence même de leur implication dans la société et dans la vie publique. Donc cette autonomie des villes et aussi ce caractère mouvant de la réalité italienne donne aux intellectuels qui sont les citoyens et que nous pourrions appeler les bureaucrates avec un anachronisme certes, la certitude que les microstructures urbaines peuvent fonder ou même refonder les paradigmes théoriques de la politique. On commence à penser que l'État, le gouvernement, n'est plus quelque chose qui est donné une fois pour toutes par le pouvoir divin, mais que c'est quelque chose que l'homme même peut transformer, créer, mais aussi faire dissoudre. La politique est le résultat de l'action de l'homme, ce n'est plus le résultat d'une investiture divine à l'égard de quelques privilégiés. Et donc, le résultat le plus immédiat de l'expérience italienne de la relecture des classiques, qui commence, vous le savez peut-être, surtout à partir de l'œuvre de Pétrarque, qui, le premier, indique la voie d'une lecture directe des textes classiques. Donc l'expérience italienne de la relecture des classiques se matérialise dans l'apparition de cette dimension civile, de la socialité qui ne peut pas être dissociée du bon usage des institutions, à un point tel que vraiment la première modernité est une modernité civile, d'engagement dirions-nous. Tout cela est scandé par le temps de la politique de la crise et de l'instabilité des cités de la Renaissance, dans le présent immédiat de l'action et de la création du pouvoir. Et donc la participation active des intellectuels à la politique est précisément le résultat de ce présent mouvant. Et je vous indique ici une fresque qui se trouve dans le Palazzo Pubblico de Sienne et qui remonte, vous le voyez, à la moitié des années du XIVe siècle et qui est le fruit d'Ambrogio Lorenzetti. C'est une fresque qui est très abîmée aujourd'hui, mais on peut quand même y voir une préoccupation de l'artiste vis-à-vis du problème du bon gouvernement, de la bonne gestion de la chose publique. Dans cette même salle se côtoie cette fresque qui représente donc le bon gouvernement et aussi dans la paroi opposer les effets du mauvais gouvernement. Donc vous voyez par exemple en bas l'image de la justice qui est prisonnière et qui ne peut pas fonctionner. Ce sont des détails et je vous l'ai dit, la fresque n'est pas est en mauvais état, mais ça me semble significatif de l'engagement de l'artiste, que ce soit un peintre ou même un écrivain, dans la gestion du pouvoir. Non, le problème de qu'est-ce qui fait le bien-être, qu'est-ce qu'il faut pour bien gérer la res publica, donc la chose publique. J'en veux aussi pour exemple une citation qui vient d'un humaniste, Francesco Barbaro, vécu lui aussi à la fin du XIVe siècle, donc entre 1390 et 1454, qui dit Il est temps désormais que tu fasses descendre la philosophie de la spéculation abstruse aux luttes ardentes de la vie pratique, donc que la philosophie ne soit plus quelque chose d'abstrait, mais qu'elle s'engage dans les luttes ardentes de la vie pratique, car seuls sont heureux les hommes qui, dans un peuple libre, s'emploient pour le bien commun et qui, en traitant avec dignité les grandes affaires, acquièrent la renommée de sage. Et en effet, la plupart des grands humanistes furent aussi des hommes politiques de très haut niveau, capables de faire passer le savoir des studia, c'est-à-dire des écritoires, des ateliers, dans le contexte de l'action sociale et gouvernementale. La vertu, pour eux, est à la fois la dignité de la politique, une mission civile et une ambition du gouvernement. Savoir et pouvoir scellent alors leur première alliance. Et pendant l'humanisme qu'on appelle civil, non caractérisé par cet engagement de l'intellectuel dans la vie active de la société, la simultanéité avec le monde antique et la lecture des textes classiques alimentent et animent le laboratoire du présent. L'expérience des anciens donne à la pensée politique moderne de nouveaux mythes des origines. Et le débat dont les humanistes remplirent des bibliothèques entières s'organise en effet autour de la dialectique république principa. Quelle est la meilleure forme de gouvernement? Est-ce la république? Est-ce le principa? Le nœud, par exemple, qui est constitué par l'évolution dynamique de la démocratie vers la démagogie, de l'aristocratie vers l'oligarchie, de la monarchie vers la tyrannie, fut un point de repère important dans les débats qui eurent lieu au sein des communautés urbaines, en particulier italiennes, engagées dans des changements historiques radicaux. La politique ne peut être réduite à la recherche d'un équilibre basé sur le respect de pouvoir établi à jamais. Elle devient un véritable acte de création qui découle de la vertu et du savoir. Si nous pouvions entrer dans l'atelier des humanistes, nous pourrions observer qu'à la Renaissance, le temps personnel intérieur est fait d'un dialogue avec les archives de la mémoire et de la culture qui est si intense qu'il peut libérer l'imagination et les passions. J'aime montrer une citation qui provient de Niccolò Machiavel, dont vous voyez ici un portrait fait par Cristofano dell'Altissimo, une citation qui est presque une confession. Machiavel nous confesse que le soir venu, je rentre à la maison et m'installe dans mon écritoire. Sur le seuil de la porte, je me débarrasse des vêtements paysans, pleins de boue et d'ordures, et je me revais d'habits dignes d'un roi et d'une cour. Habillé décemment, j'entre ainsi dans les cours antiques des hommes antiques, dont je reçois ce qu'ils me donnent avec amour. Je me nourris d'une nourriture qui est toute à moi, car je suis née pour elle. Je n'ai pas honte de leur parler et de leur demander les raisons de leurs actions. Ils me répondent par humanité. Pendant 4 heures, je ne ressens pas l'ennui, j'oublie toute inquiétude, ne crains pas la pauvreté, ne suis pas effrayée par la mort, je me transfère entièrement en eux. Et donc c'est véritablement une confession, presque une prière, un moment de recueillement intime qui nous est décrit ici, où l'humaniste n'a pas peur d'interroger les anciens, de dialoguer avec eux, de leur poser des questions, et il en attend des réponses. Et là, on peut oublier la solitude à laquelle, vous le savez peut-être, Machiavel, à partir d'un moment de sa vie, fut soumis par les événements, puisqu'il était secrétaire de la République de Florence, et le retour des Médicis à Florence en 1512 fit qu'il fut totalement exclu de la vie publique. Donc ici, nous avons une confession d'une solitude, mais aussi d'un dialogue perpétuel avec les anciens. L'homme moderne produit ainsi ses héros, le prince, le courtisan, le sujet, le citoyen, l'intellectuel engagé dans la vie politique, qui créent à leur tour des dieux, la souveraineté, le Léviathan, la volonté générale, la nation. Nous pourrions même établir une sorte d'anthropologie politique de la modernité en imaginant une séquence qui va du couple prince-courtisan, au XVe, XVIe siècle, à celui qui est formé par souverain sujet au XVIe et XVIIe siècle. Et par contre, je laisserai les catégories de philosophes citoyens, puis d'intellectuels engagés et enfin d'hommes de masse au siècle des Lumières et à notre époque. C'est donc à travers cette anthropologie politique de la modernité que je voudrais vous entraîner, car la littérature ne peut pas ne pas enregistrer ces changements anthropologiques que nous essaierons de parcourir. Et en effet, sur un laps de temps très court, prennent vie et montent sur la scène littéraire européenne trois personnages types qui correspondent aux figures sociales que je viens d'énumérer. Le prince de Machiavel naît en 1513. Le courtisan de Baldassarre Castiglione en 1518. Et l'habitant d'Utopia de Thomas More, comme ça nous voyons les trois personnes, en 1516. Donc, premier échelon de ce parcours auquel je vous invite est celui du prince. Vous le savez peut-être, ce traité a commencé en 1513, mais il a été terminé en 1517, lorsque Machiavel, désireux de s'attirer les amitiés des Médicis, ajouta quelques derniers chapitres au traité qu'il avait composé quelques années auparavant, ainsi qu'une lettre de dédicace à Laurent, le duc d'Urbain, qui faisait partie d'une branche cadette de la famille des Médicis. L'ouvrage se compose de 26 chapitres, dont la partie initiale est consacrée au problème de l'acquisition du pouvoir, l'acquisition de l'État. Machiavel distingue différents États classés selon deux grands types, la République et les monarchies pouvant être héréditaires ou bien nouvelles. Et les premiers chapitres sont consacrés à la manière dont on peut acquérir de nouveaux États, de nouvelles monarchies. Puis il y a une partie centrale du traité dans laquelle est abordé le problème de la milice, c'est-à-dire que pendant la Renaissance, tous les États se servaient de mercenaires, de soldats qui étaient payés pour faire la guerre et qui posaient énormément de problèmes puisque selon qu'ils soient plus ou moins payés, ils pouvaient carrément abandonner le champ de bataille. Machiavel prône par contre la création d'une milice nationale avec un système semblable à celui du service militaire. Et enfin, les derniers chapitres qui dévoilent les intentions un peu de l'auteur concernant l'unité d'Italie, le dernier chapitre se terminant par la reprise d'une chanson de Pétrarque consacrée à l'Italie, dans laquelle Pétrarque, et donc Machiavel, par la voix de Pétrarque, invoque enfin l'unification de la péninsule. Ce traité a souvent posé des problèmes d'interprétation, y compris le machiavélisme, qui est vraiment une lecture historique de Machiavel, dans le sens où chaque époque a attribué au traité de Machiavel des clés de lecture différentes. Ce prince, donc, pourrait être défini comme un des rêves les plus vivants et dramatiques sur la constitution du pouvoir. L'auteur lui-même le définit comme un « ghiribizzo », un caprice. Et en effet, le lecteur ressent un malaise face à la provocation de cet essai. Une provocation qui est déterminée par le fait que la lecture du prince nous laisse encore aujourd'hui dans l'incertitude entre l'envie de nous laisser prendre par l'émotion et la prise de distance qui est nécessaire à l'examen analytique que demande le genre de l'essai. Au-delà de ce malaise, toutefois, nous pouvons trouver dans la confession que j'ai citée plus haut une véritable clé de lecture de ce texte qui est emblématique de la modernité. Lorsque Machiavel avoue, sur un ton de prière passionné, interroger les anciens, il nous laisse entrevoir le pouvoir presque chamanique du rapport au texte ancien et la capacité de l'imagination de manipuler le temps d'ici et maintenant à l'aube de la modernité. La vie solitaire de Machiavel, au lieu de produire une béatitude de l'âme, attise un feu de l'esprit qui ne s'apaise pas. La solitude de Machiavel coïncide avec l'attente frustrée d'un retour dans le monde et d'une liberté d'action qui ne subit pas les conditionnements de l'autodiscipline morale et ne supplie pas au parcours didactique de l'éducation humaniste. Le dialogue de Machiavel avec le passé devient alors un trait d'union instantané avec le présent. Mieux encore, les actions des anciens, dont Machiavel nous dit qu'il les a apprises avec une longue expérience des choses modernes et une lecture continuelle des anciennes, donc les actions des anciens dansent sans trouver d'obstacle entre le passé, le présent et le futur. Les personnages et leurs actions deviennent alors les éprouvettes du laboratoire dans lequel le facteur temps intervient comme une variable de l'expérience. Chaque événement est ici et maintenant, mais révélé par les textes du passé qui offrent le lieu des origines, une véritable parabole qui est donc une matière vivante, en action. De cet alambic sort alors un prototype d'homme moins apollinien, moins souriant que celui prôné par les humanistes, mais aussi puissant que celui-ci, et peut-être même plus vrai. Le prince de Machiavel tire sa vitalité du contact direct avec l'inscription de la politique et du pouvoir dans le temps. Pour exister, le prince est contraint de répéter sans cesse l'expérience dont il a pris ses origines. Machiavel est donc véritablement moderne, car il célèbre le mythe des origines en privilégiant le neuf, la conquête ici et maintenant, non pas le passé ni le futur. La fondation et la conquête, en effet, s'expliquent par elles-mêmes. La politique est le produit de l'action humaine, elle vit dans le présent et subit les secousses du conflit cosmique. La force peut être l'origine du pouvoir, en causer la survie, mais aussi la mort. Et en d'autres mots, le temps humain, tout en étant confronté au flux du destin, n'est plus un produit d'un dessein providentiel, mais le temps humain définit un espace de liberté qui place en son centre la vertu de l'homme. Le pouvoir est ici et maintenant, c'est le moteur de notre temps, il n'a pas besoin d'autoconsécration et se rend légitime par lui-même. Parler du prince veut dire alors parler de la création de ce pouvoir. Le prince est celui qui organise le temps et les événements. Et donc, le principat, son œuvre, devient aussi une œuvre d'art. La politique devient esthétique. Et la science politique produit, ni plus ni moins que la littérature, des mythes. Dans ce sens, le prince est le héros primordial de la modernité. Il efface, ce prince, le souvenir des Roland, des Siegfried, des Tristan, qui ne sont pas des princes, mais des guerriers. Leur tâche principale consiste en la conservation de l'ordre fixé depuis toujours par la Providence. La vertu du héros médiéval consiste en une adéquation à son destin. Il doit accomplir son destin. La violence dont il fait usage est une violence défensive. Son devoir est celui de la reconquête et non pas de la conquête. Et il lui importe d'affirmer par-dessus tout une justice qui est une recherche de stabilité et de conservation de l'ordre. Ça, c'est le devoir du guerrier. La force du prince machiavélien, par contre, consiste en une organisation de la violence. C'est une intelligence de gestion, pourrait-on dire. La justice, pour lui, est un instrument du pouvoir et son principal fruit de sa création. Ça, c'est un véritable point de rupture. Nous voyons ici l'invention d'un nouveau modèle d'homme, l'homme politique justement, qui vit dans un présent fluctuant, précaire, jamais soustrait au risque de la ruine, de la dissolution. Et l'action du prince se fonde sur le désordre des forces connues et inconnues qui font bouger le monde et en font un plasma dense de pouvoir. Or, cette vision du prince, de ce prototype humain que nous présente Machiavel, malheureusement, ne rencontre pas l'action des souverains européens, ceux qui véritablement sont les acteurs de la mutation européenne qui se concrétisera dans la naissance des grandes monarchies territoriales. Et qui sont, eux, plutôt des hommes liés à une culture moins pragmatique et à bien des égards beaucoup plus traditionnelle que celle qui est prônée par Machiavel. Ils font appel à d'anciennes valeurs telles que la foi, la tutelle des peuples, l'union mystique entre la couronne et le royaume. Leur science du pouvoir coïncide avec le dur métier du roi, leur responsabilité à l'égard de la dynastie, la fidélité au mandat familial. Le devoir du roi est celui de continuer son lignage, sa famille. Les souverains d'Ancien Régime sont soumis au temps long des générations et d'un dessein providentiel. Ils sont les serviteurs de la foi, du lignage, du peuple, jamais du pouvoir. Et leur justice est une médiation paternelle entre les différents corps sociaux. Donc, ce prototype du prince ne se réalise pas tout de suite dans l'action des rois qui fondent les grands États nationaux à la Renaissance. Le modèle machiavélien restera encore longtemps exceptionnel. Et comme je vous l'ai dit, le prince est l'expression de circonstances historiques particulières, le résultat d'une série de défaites plutôt que d'une suite de victoires. Cette œuvre reflète le drame d'un pays qui est un peu en retraite vis-à-vis de son temps, qui est marqué par la dissolution de la nébuleuse italienne et par la recherche d'une suprématie plutôt que des raisons d'une véritable unité. C'est l'éternel problème italien, nous en sommes toujours là, mais qui fait de l'Italie encore, à ce moment-là, un laboratoire exceptionnel. Dans les autres réalités européennes, disais-je, prend forme par contre une politique qui se résume à la souveraineté, qui n'est pas l'acte créatif de la conquête ou de la fondation, mais coïncide plutôt avec l'ordre du temps, conférant sacralité et pérennité au pouvoir. C'est le Léviathan, le pouvoir absolu, qui deviendront les axes autour desquels se mouvera la nouvelle figure du courtisan. Et donc nous en venons justement aux courtisans. Voilà, ici vous avez une représentation de la première édition du Prince de Machiavel. Ici par contre, il y a une reproduction de la première édition du Libro del Cortegiano qui fut édité à Venise par Aldo Manuzio, Manus, en 1528. Dans cet autre modèle anthropologique, donc celui du courtisan, nous pouvons déceler un important élément de rupture avec le passé, le point de départ d'une ligne destinée à traverser la modernité. Le courtisan est l'habitant d'un espace et d'un temps fermé, artificiel, construit grâce aux nouvelles technologies du pouvoir, celles de la cour-palais. Et en effet, ce traité, qui est en fait un dialogue imaginé entre trois personnages, se déroule dans le château de la ville d'Urbino. Le château d'Urbin, dans lequel se déroule donc ce dialogue, est un lieu presque irréel, quasi magique, dans lequel les habitants ne bougent pas. Ils n'agissent pas. Ils parlent, ils dialoguent simplement. Le Cortegiano est donc déjà un théâtre, une représentation publique, un spectacle et une mise en scène de la vie quotidienne. De l'œuvre de Baldassare Castiglione ressort un cadre humain qui est impressionnant. Le vrai courtisan doit savoir lire, écrire, y compris le latin et le grec. Il doit être homme de lettres, bon diseur, versificateur, rhéteur. Il doit éduquer son corps en maniement des armes, à l'équitation, à la danse. Sa démarche doit être harmonieuse et puissante à la fois, et elle s'accompagne d'une socialisation contrôlée, exclusive, avec ses pairs et son seigneur. Le courtisan n'est pas noble, c'est plutôt un aristocrate, un être supérieur à ceux qui l'ont précédé. Il ne s'identifie pas à une famille, au contraire, il assume la responsabilité du futur de sa progéniture. C'est lui qui la fonde et qui en dicte la devise, et qui invente ses racines, son histoire, sa tradition. Son identité consiste dans sa culture professionnelle, sa loyauté est uniquement adressé au milieu qui l'entoure et qui se reproduit à travers lui. Le courtisan doit savoir aimer, mais le commerce de ses sentiments doit se fonder sur la distance intérieure entre soi et la représentation de soi, entre son être et le modèle qu'il se propose de lui-même. Dans la cour, le temps du Seigneur, qui est agité par le raz-de-marée des événements qui l'entourent, se transforme en une confrontation quotidienne entre la qualité du temps intérieur et le temps du social, mais qui est déjà tout humanisé, scandé par les rites qui célèbrent le pouvoir. Le problème de cet acteur est de gagner la scène, occuper le temps d'un nouvel ordre non seulement social, mais aussi politique, c'est-à-dire l'espace des relations de pouvoir. Ainsi, l'aristocrate remplace le noble guerrier. Conseiller discret du Seigneur, et non pas bras armé de la royauté et de la foi qui la soutient, cet aristocrate n'a rien de tragique, bien au contraire. Il est souvent souriant, en apparence solaire, dit-on en italien, souriant, solaire, extraverti. Seulement, c'est un dissimulateur. Fin psychologue, manipulateur, il est le dépositaire des angoisses et des secrets, il est littéralement le secrétaire de son Seigneur, et il se distingue du commun des mortels grâce à son attitude à l'auto-observation, à un haut degré de ce que Castiglione appelle la sprezzatura. Donc, je cite ce passage dans lequel le mot de sprezzatura intervient et sur lequel on s'arrêtera quelques minutes. Je trouve une règle très générale qui me semble servir quant à ce point en toute chose humaine que l'on fait ou que l'on dit plus que nul autre. C'est de fuir tant qu'il est possible, comme un très âpre et dangereux rocher, l'affectation, et pour dire peut-être un mot nouveau, user en toute chose un certain mépris et nonchalance. Donc, en français, on a traduit sprezzatura par mépris et nonchalance, qui cache l'artificiel et qui montre ce qu'on fait comme s'il était venu sans peine et quasi sans y penser. Et pour cette cause, peut-on dire que le vrai art est celui qui ne semble pas être art? Et doit-on surtout employer tout soin à le cacher pour ce que s'il est une fois découvert, il ôte entièrement le crédit et fait que l'homme est peu estimé? Donc cette sprezzatura est une espèce de mépris, de nonchalance, de prise de distance, de self-control, de capacité de vivre aux confins de la vie mortelle, là où les expériences humaines semblent se transformer en mode, là où la culture propose un miroir qui produit des images qui sont des masques. Et puisque le courtisan se caractérise par une absence de passion, il peut se revêtir de plusieurs masques sans pudeur. Mais la sprezzatura est aussi une éthique professionnelle. Savoir être un courtisan coïncide bientôt avec savoir être un homme du monde et dans le monde, un homme à la mode et de la mode. Être dans le monde, c'est-à-dire dans la cour, est la véritable marque de l'homme de pouvoir, capable de pratiquer la socialité comme engagement politique, dévouement et participation au pouvoir. Ici, il ne s'agit plus du moment de la prise du pouvoir, mais de la participation au pouvoir. Pour le courtisan, comme pour le prince, le pouvoir s'exerce ici et maintenant, mais ce pouvoir est déjà constitué. Il ne nécessite pas d'explication ni d'action prométhéenne. Le pouvoir se manifeste aux yeux du courtisan comme une présence immanente, comme un tissu de parcours bureaucratique qu'il faut s'approprier. Sa stratégie de conquête est une tactique des relations interpersonnelles. Ce qui l'intéresse n'est pas dominer, mais plutôt faire carrière, aller plus haut. Ce qui veut dire aussi que l'architecture anthropologique de ce nouvel acteur, du courtisan, n'est pas finie. Que son projet est ouvert à des adaptations multiples. Le temps du courtisan est donc un temps ouvert, car c'est le temps du projet conscient de soi. Et la sprezzatura est une stratégie personnelle, mais elle ouvre aussi un lieu de la conscience, qui est celui de la solitude et qui devient le fondement et la condition de la vie sociale. Le temps de la politique courtisane est donc plus dilaté que celui ponctuel, immédiat du prince. La dimension de la prise du pouvoir, qui était propre au personnage de Machiavel, est remplacée par celle de la participation au pouvoir. Le calendrier, les rites du palais en scandent le rythme, et c'est la socialité qui envahit le pouvoir. Mais cette socialisation est une socialisation forcée de la politique et du pouvoir. Et donc se fait place, au cours de la Renaissance aussi, la revendication de l'opposé, d'une transparence, de rapports de l'impide, d'un monde à l'envers dans lequel les chaînes d'or du courtisan apparaissent telles qu'elles sont, c'est-à-dire un symbole de soumission. Et donc, du château d'Urbain, la scène se déplace vers les villes des Pays-Bas, Bruges, Bruxelles, Anvers, hein, des terres plus proches de nous, de vous. Et en effet, Utopia, de Thomas More, ne naît pas des conversations tenues pendant les pauses du cérémonial de la cour, mais dans le jardin d'une maison bourgeoise d'Anvers, où se retrouvent trois hommes, dont Itlodé, un marin qui a parcouru toutes les mers et est arrivé un jour dans l'île d'Utopia, c'est-à-dire l'île du non-lieu. En fait, il y a une incertitude quant à l'étymologie de ce nom. On peut l'interpréter comme le non-lieu ou bien l'île du beau, hein, du bon, E dans le sens de bon. Le traité est composé en 1516 et il est divisé en deux parties. Une première partie qui est une véritable critique sociale des ravages qu'engendre dans l'Angleterre du XVIe siècle, le premier mouvement des enclosures, c'est-à-dire du développement de l'industrie lainière, de l'aristocratie qui se met à créer de grands élevages de moutons, mais qui cause de grands bouleversements sociaux. Et par contre, dans la deuxième partie, Thomas More décrit cette île d'Utopie, qui est un contrepoint lumineux à l'Angleterre de son temps. L'économie utopienne repose sur la propriété collective des moyens de production et sur l'absence d'échanges marchands. Cette société, qui se compose d'une cinquantaine de villes qui sont gérées de manière semblable, vit sans monnaie. Les échanges collectifs y prennent la place de l'accumulation privée qui cause en Angleterre les malheurs du peuple. La première mission du Sénat, qui est l'institution la plus importante de Utopia, qui est la statistique économique qui permet la pérégation des richesses entre villes. Et Utopie commerce uniquement les surplus de son économie avec l'étranger, non pas pour s'enrichir, vu que l'or n'a aucune valeur dans cette île, mais pour engager des mercenaires en cas de guerre. Pacifiques et respectueux de la liberté religieuse, les utopiens reconnaissent cependant un être suprême et l'immortalité de l'âme. Plusieurs embrassent la doctrine chrétienne que leur présentent leurs visiteurs, fondée sur la volonté de vivre selon la nature. La morale publique de l'utopie est rigoureuse. Elle condamne la dissimulation, les jeux de hasard, la polygamie, l'adultère. Le divorce par consentement mutuel, par contre, est possible. Et donc, l'utopie est une véritable satire de l'Angleterre de son temps et l'affirmation du souhaitable, qui se conclut par un avertissement quant à la faisabilité d'une réforme qui va dans le sens de « je le souhaite plus que je ne l'espère ». Donc il s'agit d'un rêve, d'une invitation à l'action plutôt que d'une expectative. L'île d'Utopia, qui est l'île de la raison, de la tolérance, mais aussi de l'ironie et du jeu, est un présent absent, une réalité irréelle, un ailleurs nostalgique. La prestidigitation littéraire et philosophique a pour but précisément de montrer la plausibilité d'un monde à l'envers. La possibilité d'identifier ce lieu découle nécessairement du contraste avec la réalité sociale et le désordre qui la caractérise. C'est pourquoi souvent, et c'est le cas pour More, l'espace utopique est celui du paradoxe. Or, il faut savoir que l'utopie à la Renaissance est étroitement liée à une inquiétude spirituelle en quête d'une rénovation, d'un renouvellement religieux, d'une modernisation du christianisme et de la discipline morale, dont on veut qu'il se transforme en une foi d'ici et maintenant, dont la fruition soit définitivement libérée du temps providentiel déjà entièrement écrit du début à la fin des temps. Et donc mort, de même que Machiavel, ne prévoit pas de futur, ni programmé ni programmable. Il ne pense pas dépasser les confins du temps présent et intérieur de l'humanitas. Plus en général, tout le genre utopiste est un genre littéraire consciemment fantastique qui tend à maintenir sans altération la magie du présent et à l'exploiter jusqu'au bout. C'est pour cette raison qu'il est difficile de classer les œuvres qui s'inscrivent dans ce genre. Tantôt on dit que ce sont des œuvres progressistes, socialement avancées parce qu'elles sont critiques, ou bien on dit qu'elles sont réactionnaires, régressives, parce que fruit de l'évasion et non de l'engagement. Les œuvres qui rentrent dans le genre de l'utopia traduisent tout l'espoir ou la nostalgie de celui qui est conscient de son temps, qu'il sait qu'il n'en aura pas d'autre, et qu'il devra se contenter de l'expérience du récit, du faire semblant que. Et en réalité, dans la culture humaniste, l'utopie est une parabole, un enseignement, la construction consciente d'un mythe. Le processus créatif ne balaye pas les mystifications du temps, il les dévoile et s'en moque en allant droit au but. Dans la réfraction entre le passé et le présent, entre les anciens et les modernes, mort choisit le temps de ce qui pourrait être, du conditionnel, c'est-à-dire d'un présent intérieur vécu par l'intellectuel humaniste. Cela toutefois ne veut pas dire qu'Utopia réalise une suspension de la pensée politique qui céderait au temps long de la pratique politique. Au contraire, le temps parallèle de ce qui pourrait être devient le point d'ancrage de la culture et de la raison, un véritable miroir culturel et moral de l'ordre du monde. Est-ce que les enseignements de la parabole d'Utopia sont transmissibles aux princes et aux hommes d'État ? Évidemment, non. Mort en est bien conscient. Et pourtant, libre de la confrontation avec le destin dont est victime le prince, affranchi de l'obligation à la dissimulation qui frustre le courtisan, l'homme européen du XVIe siècle trouve dans les pages de mort un temps plus ouvert, parallèle et toujours disponible, dans lequel il échappe à la responsabilité de se donner ses propres lois, mais les subit par l'autorité incontestée et raisonnable de la nature. Ce sera la sortie de cet homme des terres lointaines d'Utopia et son entrée dans le temps au futur qui scelleront le point culminant de la spéculation politique de notre modernité, de notre contemporanéité. Donc, nous avons presque terminé cet itinéraire. Un prince, un courtisan, l'habitant d'un lieu qui n'existe pas. Un nouvel héros, un professionnel des relations sociales, un homme gouverné par les lois qui le conduisent à une socialité naturelle. Nous avons aussi traversé trois temps. Le temps instantané de la fondation du pouvoir, le temps dilaté de la gestion des rapports de pouvoir, le temps conditionnel, possible, du philosophe législateur qui crée des paradis artificiels. Maintenant, donc, pouvoir et savoir ont scellé leur alliance définitive. Le récit du pouvoir peut commencer et la modernité s'identifie avec la narration que le pouvoir fait de lui-même. L'histoire de la pensée politique de la modernité peut être parcourue à partir donc de ces modèles qui trouvent leurs racines dans la culture humaniste et renaissante. La simultanéité du présent avec le passé antique, puis la rupture de l'espace fermé que produisent les découvertes de Christophe Colomb, permettent à l'homme européen de s'imaginer et de se projeter dans une séquence complexe de masques se poursuivant au cours de trois siècles. Le point culminant de ce parcours anthropologique bien tourmenté est le citoyen. Prince, puis souverain absolu, courtisan, puis homme de lettres et philosophe, sujet, puis citoyen, enfin citoyen souverain, peuple, nation. À partir de 1789, faire de la politique ne signifie plus organiser la continuation de son lignage, ni donner des préceptes aux princes, ni même rechercher le fil rouge qui, le long du passé, conduit aux mythologies anciennes. Mais faire de la politique, à partir de la Révolution française, signifie produire de nouvelles mythologies et en dévoiler les secrets, les annoncer et recueillir le consentement, organiser le social en vue d'occuper les nouveaux confins du temps. La souveraineté ne sera alors pas absolue, mais le fruit de la volonté. Elle ne sera plus l'apanage exclusif du monarque qui est le légataire du pouvoir divin, mais elle appartiendra aux citoyens qui héritera du code génétique du prince, dont il hérite la lutte individuelle contre le destin pour la conquête et l'organisation du pouvoir. Elle héritera du code génétique du prince, du courtisan, acteur d'une socialité politique et de stratégie individuelle pour la conquête du rôle de participation. Elle héritera du code génétique du paisible habitant de l'île qui n'est pas, comme objet de loi immuable du bonheur social. Et donc, ces œuvres qui peuvent apparaître opposées, l'œuvre de Machiavel considérée comme un exemple de réalisme politique, celle de Mort comme de non-réalisme, et celle de Castiglione qui est reléguée souvent dans le genre pédagogique littéraire, donc ces œuvres qui apparaissent opposées ont un point commun très important, car toutes les trois se posent comme les fondations, mettant en leur centre trois espèces d'un seul et unique genre. Ainsi, dans le présent instantané, se déroule l'action faustienne du prince, dans le quotidien, dans le jour après jour, se définit le courtisan, et dans un présent inaltérable se consument les comportements de l'utopien. C'est par leur contiguïté que ces trois figures fondent le socle sur lequel peut s'ériger le citoyen et donc l'homme de la contemporanéité. Je voudrais terminer par un questionnement qui peut-être pourra donner lieu à un petit débat. Cette figure du citoyen que nous considérons comme l'archétype de l'homme moderne à partir de la Révolution française, cette figure est-elle moins imaginaire que ses antécédents anthropologiques ? Est-ce une réalité ou bien le reflet du spectacle organisé par le pouvoir sur la scène de la culture et du savoir? Le citoyen est-il une réalité ou bien un projet ambitieux, un héros mythique qui appartient au temps de la création? Comme le prince, le courtisan et l'utopien, le citoyen est, à mon sens, une élaboration de l'anthropologie occidentale de la modernité, destinée à vivre dans nos consciences plutôt que dans l'histoire. Le citoyen aussi, tout comme les autres figures que nous avons esquissées, est le résultat de processus sophistiqués d'ingénierie sociale, de politique éducative et culturelle. Le citoyen est un masque qui représente le sentiment de la modernité, son produit inconscient. C'est une catégorie au futur. Plus que toutes les autres figures sociales que nous avons traversées, plus que tout autre modèle anthropologique, il est l'habitant du temps à venir, le reflet confus d'un masque dont nous n'arrivons pas ou pas encore à saisir les traits. Je vous remercie.
Je remercie Madame Moreno et je vous invite immédiatement à poser des questions ou à faire des commentaires. Commencer, puisque
oui.
C'est souvent la première intervention la plus difficile. Pourquoi est-ce qu'il vous semble que se mêle vraiment à partir de la Renaissance, et est-ce que c'est juste à la Renaissance ou c'est à partir de la Renaissance littérature et politique?
Parce que c'est à partir de l'humanisme civil que l'intellectuel se voit comme quelqu'un qui a un rôle dans la société, un rôle qui est en même temps de gestion de la chose publique, mais aussi de conception des meilleures institutions qui permettront la réalisation du bien commun, du bonheur individuel et collectif. Parce que c'est à la Renaissance qu'on commence à penser que le pouvoir politique, l'État, n'est pas quelque chose qui est créé dans l'absolu par Dieu et que c'est le produit de l'activité humaine. Et donc, c'est à ce moment-là, à mon sens, que se manifeste de manière spectaculaire ce lien entre l'intellectuel, qui est souvent un écrivain, un littéraire, et l'engagement politique.
Est-ce que vous diriez que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a prise de distance entre l'intellectuel et le politicien ? Quand je pense avec Sartre, par exemple, l'idée des mains sales, c'est vraiment cette prise de conscience de cette distance.
Absolument. Je pense qu'effectivement, il y a là des attitudes différentes vis-à-vis de la politique qui est de plus en plus aujourd'hui considérée comme quelque chose qui est réservé à une catégorie de techniciens, en quelque sorte. Hein. Et peut-être aussi grâce à Machiavel, on a commencé à considérer la politique comme un art qui demande des techniques et des savoir-faire spécifiques. Mais je pense surtout à l'idée d'engagement de l'intellectuel dans la société. Je crois qu'on peut vraiment comparer cette idée d'engagement à la Renaissance à la figure de l'intellectuel engagé d'aujourd'hui. Pas tellement, aujourd'hui, on ne le voit pas tellement en termes de rapport au monde de la politique, mais plutôt de rapport de l'intellectuel, de l'écrivain, avec la société, avec le monde qui nous entoure.
D'autres questions ? Intervention.
Je vais peut-être moi poser une question au public. La fin de mon exposé, de ma conférence est une provocation. Hein, et je voudrais savoir comment vous réagissez. Est-ce que vous pensez que cette figure du citoyen est un mythe, de même que le prince, le courtisan, le guerrier et l'utopien, ou bien pensez-vous que c'est une réalité ? Est-ce que vous pensez que...
Effectivement, il y a une certaine hypocrisie à dire aux citoyens « tu dois t'occuper de la gestion de la société » en refusant absolument de lui en donner à tous les citoyens les moyens intellectuels, les moyens de connaissance et les moyens de temps libre. Mmh. Donc, effectivement, il y a eu... c'est une démocratie d'un petit groupe, de ceux qui peuvent, élitistes, quoi.
Mais toute société a besoin de mythes, je crois. Et ces mythes, c'est surtout la littérature qui les crée. Et donc, c'est pour ça que le lien entre littérature et politique m'intéresse, parce que ça me semble caractéristique aussi d'une certaine capacité à représenter, donc sous ce que j'ai appelé des modèles anthropologiques, indépendamment du fait que les gens puissent adhérer totalement à ce modèle, à ce prototype. Dans la plupart des cas, ce n'est pas comme ça. Et donc, il me semble quand même que l'illusion que le citoyen n'est pas un mythe et que ce ne sont que l'utopien, le prince et le courtisan, des figures un peu pas réelles, est une illusion. Je pense que notre société aussi se crée des modèles, des prototypes, et la littérature contribue à créer ces modèles, ces prototypes, qui ne sont pas, à mon sens, uniquement négatifs. Au contraire, on a besoin de modèles.
Je pense, par exemple, pour essayer de concrétiser ce que je voulais dire, Berlusconi est propriétaire de sociétés de télévision qui sont des magnifiques fabriques d'imbéciles, donc de non-citoyens.
Oui.
C'est ça que je veux dire. On refuse aux gens les moyens d'être des citoyens.
Mais il n'en reste pas moins que nous avons un modèle de citoyen, un horizon auquel nous aspirons, hein, dans la plupart des cas. Bon, dans le cas de Berlusconi, c'est une exception. Il ne vise même pas ce modèle-là. Je crois que vraiment, là, nous sommes loin de la politique considérée comme esthétique et du pouvoir considéré comme œuvre de création de la part de l'homme politique.
Le modèle donc, que vous avez présenté ici, qui évidemment semble très, très intéressant dans toutes ses dimensions, est-ce qu'il a été appliqué dans d'autres parties de l'Europe et de quelle manière est-ce que ça s'est répandu en fait? Est-ce que vous pourriez un peu expliquer ça donc, oui. De quelle façon on a tiré bénéfice en fait de tous ces penseurs italiens?
En fait, et le prince de Machiavel et le courtisan de Baldassare Castiglione, mais aussi le traité de mort, ont été immédiatement traduits. Et en particulier, le Cortegiano a été immédiatement exporté dans les cours européennes et utilisé comme un manuel, disons, de celui qui doit être le parfait courtisan. Et donc, si Castiglione dit qu'il doit savoir faire de l'équitation, de l'escrime, etc., ça constitue une espèce de, comment dirais-je, de manuel du courtisan. De même que le prince, il a été très précocement traduit, mais le problème du prince, c'est qu'il a été lu vraiment à l'aune des intérêts politiques de différentes époques et de différents pays, ce qui a donné lieu à tous les préjugés concernant Machiavel, le machiavélisme machiavélique, etc. Donc ce sont quand même des prototypes qui ont été immédiatement exportés et exportables. Maintenant, si votre question consiste est-ce qu'il y a un personnage qui a voulu vraiment incarner ces modèles-là, je dirais non, dans la réalité, non. Mais beaucoup de personnages littéraires, à partir de la diffusion de ces textes-là, ont un peu puisé dans les modèles qui étaient proposés dans ces trois œuvres, qui pour moi sont un peu emblématiques. J'aurais pu apporter d'autres exemples, mais il me semble que là, non seulement on passe le clivage Italie et le reste de l'Europe, puisque Thomas More intéresse une région comme l'Angleterre et situe son texte dans les Pays-Bas. Mais il me semble aussi que ça représente trois temps, trois prototypes différents, trois manières aussi d'envisager l'espace. Ça me semblait intéressant, mais le parcours pourrait être compliqué, enrichi d'autres personnages et d'autres points de repère, toujours internes à la littérature, puisque je considère que Le Prince aussi est une œuvre littéraire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
C'est quel déclic, en quelque sorte?
Ce sont les fondations, je trouve.
Je voudrais revenir un instant sur votre provocation. Le citoyen existe-t-il ou est-il toujours en projet? Ben, ça fait depuis la Révolution française qu'il est en projet, je crois, parce qu'il n'existe réellement que dans quelques rares exceptions encore dans le monde où on pratique encore un peu la démocratie directe, où manifestement le citoyen a toujours un pouvoir politique immédiat puisqu'il participe pratiquement à toutes les décisions importantes de la société. Mais chez nous, depuis la fondation de la démocratie...
Chez nous, en Belgique.
Oui, en Belgique. Mais en Belgique, en France et un peu partout ailleurs d'ailleurs, dans la plupart des pays démocratiques, nous sommes dans un système de démocratie représentative où nous élisons des représentants qui, dans la plupart du temps, sont tout simplement des inféodés à leur parti politique. Et nous le voyons très bien au moment des votes dans les assemblées, générales, que ce soit le Parlement ou les conseils communaux. Après une belle discussion pendant quelques heures ou quelques jours, le vote final, c'est majorité contre opposition. Je ne connais pas, j'ai fait quelques recherches, je ne connais pas d'exception à cette règle. D'ailleurs, regardez bien, regardez derrière vous dans l'histoire, aucun gouvernement en Belgique n'est jamais tombé sur un vote de sanction du Parlement. La plupart des gouvernements ont disparu tout simplement parce qu'une des parties composantes du gouvernement ou de la majorité a à un moment donné fait faux bond et le gouvernement a tout simplement présenté sa démission. Le terme ici n'est pas tombé sur une décision du Parlement, mais tout simplement par la démission du Premier ministre suite aux affaires de Fortisgate. Donc je veux dire par là qu'à partir du moment où le citoyen chez nous a voté entre deux élections, il est politiquement mort. Ou si vous préférez, je l'appellerai plutôt le nu propriétaire de la démocratie, mais l'usufruit en est totalement confisqué par la classe politique. Et je crois qu'il est urgent de réagir et de se réveiller parce que ça s'aggrave. Ça s'aggrave à un tel point que lorsqu'on a fait un sondage au moment des élections de 2007 en Wallonie, savez-vous que lorsqu'on aura à la question quels sont les deux partis au pouvoir en Wallonie, il n'y avait que 17% de Wallons capables de répondre. À un moment donné, j'ai cru avoir mal lu dans la presse et je me dis, tiens, il n'y en a que 17% qui ne savent pas. Non, non, c'était l'inverse. Or, c'était des élections du moment en 2007, c'était l'élection régionale. Alors, je me dis, si on ne veut pas continuer à avoir, et dans le sens-là, il faudra surtout lutter contre deux propositions de la classe politique pour le moment, si vous avez suivi un peu la presse. La première, c'est le vote libre ou le vote obligatoire. Comme le vote, comme l'absence, l'absentéisme n'est plus sanctionné, certains proposent de transformer le vote en vote libre. Et la deuxième proposition, qui est à mon avis extrêmement dangereuse, c'est les élections groupées. Parce que ça veut dire tout simplement qu'on fera voter les gens une fois tous les 5 ans, globalement, sur tous les programmes en même temps. Vous imaginez le cirque. Il faudra que les citoyens comprennent les programmes au niveau européen, fédéraux et régionaux. Ils vont devoir voter sur toutes les listes en même temps. En d'autres mots, on votera tout simplement par des réflexes primaires, gauche contre droite et tout ce que vous voulez. Donc je dis que si on ne se réveille pas, on va à la catastrophe. Et pour se réveiller, il y a une formule élémentaire que je préconise, c'est qu'au moins dans les écoles, dans le secondaire, on instaure un cours obligatoire d'instruction civique et politique. Parce que sinon, jamais on ne changera les choses, puisque les jeunes continuent à faire exactement comme ceux qui les ont précédés. Et la deuxième chose que je demande, c'est que les citoyens soient d'urgence associés au départ, au moins, à des structures de démocratie participative pour qu'ils se réapproprient un minimum de compétences politiques dans un premier temps. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Les interrogations que vous posez, auxquelles, évidemment, je n'ai pas de réponse toute faite, sont des préoccupations dont les hommes de la Renaissance à Florence discutaient. À la fin du XVe, entre 1494 et 1512, se sont succédés à Florence plusieurs types de gouvernements. Il y avait tout d'abord une république, mais un gouvernement qui de facto était exercé par la famille de Médicis jusqu'en 1494. Donc les institutions républicaines étaient maintenues telles quelles, mais par un système de contrôle des charges électives, les Médicis avaient le pouvoir de facto. Puis on est passé à ce qu'on appelle un gouvernement populaire de type théocratique sous Savonarole. C'est-à-dire qu'on institue ce qu'on appelle le Grand Consiglio, une assemblée citadine, dans laquelle beaucoup de citoyens florentins siège et pas ce que nous appellerions le prolétariat, mais disons la petite et haute bourgeoisie, et où commencent à s'affirmer des comportements de pré-partis politiques, proto-partis politiques, etc. Puis on passe ensuite à une forme de principat, donc en 1512 d'abord, puis en 1530, les Médicis reviennent à Florence et instaurent une véritable monarchie de droit héréditaire. Et donc toutes ces questions, la démocratie participative, jusqu'à quel point on doit permettre aux citoyens de participer, jusqu'à quel point le pouvoir doit se servir de citoyens, mais qu'ils soient éclairés, qu'ils soient au fait de l'activité politique et aussi le problème de la formation de ces élites, ce que vous évoquiez, le cours d'éducation civique à l'école, etc., ce sont toutes des questions qui sont abordées à ce moment-là et auxquelles les réponses ont été multiples. L'histoire a donné ses réponses, mais les questionnements étaient exactement les mêmes à ce moment-là. Et celle de Machiavel est l'une des réponses possibles. D'ailleurs, il en donne une dans Le Prince, une autre dans les discours sur la première décade de Tite Live. Donc, il me semble qu'il y a beaucoup d'analogies entre la réflexion que ces intellectuels font sur leur présent et sur ce qu'ils appellent la qualità dei tempi, la qualité des temps. Comment réagir à une situation que nous devons analyser avec toute l'objectivité et la lucidité possible. Et c'est peut-être notre problème d'aujourd'hui. Nous ne pensons plus aborder les problèmes de manière globale, définitive, mais nous agissons aussi dans le présent, face aux circonstances qui nous entourent. Sur le problème du cours d'éducation civique, personnellement, j'ai quelques doutes. parce que qui pourra donner des cours d'éducation civique? Qui sera à même de dire qu'est-ce que le bon citoyen, qu'est-ce que le mauvais citoyen? Il y aura nécessairement un point de vue qui sera imposé, en quelque sorte. Et donc, ce problème, effectivement, de la formation du citoyen et des élites est un problème qui reste ouvert, auquel, personnellement, je n'ai pas de solution, mais je ne pense pas que simplement l'institution d'un cours d'éducation civique puisse apporter une réponse.
Je vais vous contredire quelque peu. Je suis assez vieux pour avoir connu un cours d'éducation civique en sixième primaire en Belgique. Et ce cours était constitué surtout de renseignements concernant la structure politique du pays qui s'est évidemment abominablement, dirais-je, complexifié entre-temps. Mais ça répondrait au moins, mais très faiblement, une partie des objections très justifiées de monsieur, c'est qu'au moins on sache ce qu'on fait. J'ai entendu dans les cours d'école où des élections européennes étaient organisées dire... Excusez-moi, je vais faire une allusion aux politiques locales, mais c'est ce que j'ai entendu. C'était en wallon, je vais le dire en français. J'espère bien que la fosse, cette fois-ci, ne repassera pas. Donc c'était le bourgmestre de l'époque, et il s'agissait d'élections européennes. Donc ça vous donne une très haute idée de la conscience politique qu'il y avait. Cela étant, si vous me permettez, je voudrais vous poser une question et revenir à votre exposé, en écoutant vos dernières réactions. Vous avez commencé, à juste titre, en expliquant le caractère éclaté de la politique et de la structure italienne de l'époque. Il faudra attendre Garibaldi, pratiquement, sauf erreur, pour voir un changement majeur. Hein. Ça va perdurer.
Absolument,
ça va perdurer pendant des siècles. Alors, quand on compare les auteurs que vous avez cités et d'autres aussi, vous ne pouviez pas en citer énormément, évidemment, on a l'impression que dans Machiavel, il y a une espèce de facteur d'échelle, que les pouvoirs politiques sont relativement petits. On sent déjà de grosses différences avec la France, avec l'Angleterre aussi, avec Hobbes, par exemple, qui est un cas tout à fait à part. Et l'Allemagne est encore différente, évidemment. Mais on a l'impression que c'est quand même extrêmement lié au terroir, quand on lit Machiavel, à ce côté vraiment éclaté de l'Italie.
Oui, c'est pour ça que je disais que l'Italie constitue véritablement un laboratoire et qu'à plusieurs égards, la situation italienne anticipe sur des réalités qui se réaliseront dans le reste de l'Europe beaucoup plus tard. Quant au problème de l'unité de l'Italie, vous savez, même maintenant, même après Garibaldi, c'est toujours un problème. Je dirais que... Oui, absolument. Je veux dire que l'unification par Garibaldi de l'Italie pose de manière encore urgente le problème de qu'est-ce que l'italianité, qu'est-ce que cette unité, quels sont les points qui mettent ensemble des personnes qui peuvent être de langues très différentes les unes des autres, de cultures, de traditions. Et pour vous donner un exemple, que les problèmes ne sont pas uniquement relatifs à la Belgique, l'année prochaine, l'Italie fêtera ses 150 ans, les 150 ans depuis l'unification. Depuis quelques années, le président de la République a suscité la question de savoir quelles sont les manifestations qu'on organiserait pour cela. La réponse qui a été donnée par le pouvoir politique, mais aussi par tout l'apparat bureaucratique, a été la création d'une rue par-ci, d'un théâtre par-là. Il n'y a pas de programme véritablement national, plutôt des petites entreprises très locales, très régionales, avec l'argent qui a été mis à la disposition pour la célébration de ce 150e anniversaire.
Qu'un simple cours informatif sur les structures. Et on peut d'ailleurs généraliser, hein, quand je dis éducation civique, c'est pas stricto sensu la politique, ça pourrait être aussi la justice. Les gens n'ont aucune idée de la façon, par exemple, demander au bon monsieur qui passe dans la rue ce qu'est une cour d'appel, ce qu'est la cassation,
mais
etc.
Alors,
vous entendrez des réponses absolument stupéfiantes.
Oui, je crois qu'il faut s'entendre aussi sur ce qu'on entend par éducation civique. Hein. Pour moi, éducation civique veut dire formation du citoyen. Hein, éducation d'un citoyen et donc proposition d'une série de valeurs, d'informations de type technique, bien sûr, ça peut être donné de manière... Oui, ça, je trouve que ça peut être donné de manière assez aseptique, dirais-je. Par contre, toutes les questions sur qu'est-ce que le bon citoyen, ça peut être très dangereux même. Hein, il faut que ça tombe vraiment de bonnes mains, alors. Mais ça peut le devenir très facilement. Et sur des personnes de jeune âge qui sont très influençables. Donc, je crois que c'est quelque chose... Le problème de la formation de reste central. Mais le cours d'éducation civique reste quand même quelque chose de problématique, à mon sens.
Je n'ai pas trouvé provoquant votre, votre proposition à la fin, mais je trouvais qu'elle s'appliquerait plutôt à l'image de l'homme politique moderne dans nos démocraties. Donc cette espèce de mélange qu'on voudrait équilibrer entre réalisme, donc c'est Machiavel, idéalisme, l'utopie, et la sociabilité politique. Et donc je dirais que c'est un peu l'idéal que nos hommes politiques se fixeraient, je crois, pour être un bon homme politique, un homme politique bien fait, humaniste, entre guillemets. Mais je ne sais pas, le citoyen, ça me semble un peu aveu. Oui, ça
relève peut-être de... citoyen dans le sens de habitant de la police, donc oui, de oui, l'espace oui. urbain commun, et oui. aussi acteur de cette police, hein, de cet espace politique. C'est dans ce sens-là que je parle de citoyen, pas l'homme. Je ne parle pas de l'homme de masse, je parle de la personne qui voudrait, pourrait, saurait s'engager dans une démarche politique qui devrait être la démarche de tout un chacun, qui peut être la démarche de tout un chacun.
Et il y a aussi un autre point, donc c'est à propos d'utopie. Je n'avais jamais entendu parler donc, de cette possibilité que ce soit eux, Topia, donc, c'est-à-dire le lieu parfait ou le lieu qui est bien.
Oui.
Je suis un peu étonné parce que dans tous les termes qui sont les termes un peu fantaisistes qui sont utilisés dans l'utopie, c'est toujours des noms, non-lieux, ou bien des absences de. Je ne sais pas d'où vous le tenez, ce serait intéressant de le savoir si...
Je n'ai pas la référence, mais depuis toujours, on dit qu'il y a deux étymologies, et d'ailleurs deux différentes traductions hein, de Utopia dans les traductions de Thomas More. Il y a deux interprétations possibles.
J'ai jamais entendu parler de Utopia.
Monsieur voulait dire quelque chose, peut-être ?
Je me rappelle de ce que monsieur disait à propos de la taille de l'espace où la démocratie est vivable. Je pense à la même chose, surtout, en fait, moi, à propos de la durée pendant laquelle elle est vivable. La démocratie, c'est quelque chose d'horriblement fatigant. Et je vois certains cas où il y a une démocratie. Quand une usine apprend qu'elle va fermer, alors là, pendant 15 jours, 3 semaines, il y a une démocratie parfaite qui s'y passe. Le temps de gagner ou de perdre. Mais à ce moment-là, et puis après ça, les assemblées syndicales, il n'y a plus personne.
Vous voulez dire que la participation...
La participation est quelque chose qui prend un temps énorme et les gens ne s'y épuisent et ne s'y investissent que quand ils sont véritablement, directement en ligne de mire. En ligne de mire et concerné. Et donc, à la fois la petitesse de l'espace, ou alors c'est vraiment la révolution à l'échelle d'un énorme pays, et puis ça se fatigue, et puis on se fatigue. La révolution française est morte comme ça, la révolution russe est morte comme ça, par la fatigue des gens.
Je ne pense pas qu'elle soit véritablement morte. Hein. Il reste quelque chose de ces moments. Absolument, mais nous ne pouvons pas toujours vivre dans la révolution. Nous ne voudrions pas, d'ailleurs. Mais c'est vrai que la participation demande... je ne pense pas que la révolution soit démocratie. Pas nécessairement. Oui, mais la révolution a apporté aussi des moments de grande tyrannie. Hein, donc, je ne pense pas qu'il faille vraiment lier les deux choses étroitement. Pour moi, ce sont des choses distinctes. Mais si vous le mettez en termes de participation, c'est vrai, ça demande un engagement. Et je crois que la société devrait pouvoir valoriser cet engagement. Or, ce n'est pas le cas. Je vous fais un exemple un peu banal. Je lis parfois dans le Times des nécrologes dans lesquels sont parfois un peu racontées les vicissitudes de la personne qui est décédée. Et il n'y a pas très longtemps, j'avais lu le nécrologe d'une personne, je crois, de 90 ans, un général, dont on racontait tout ce qu'il avait fait pendant sa vie. Et je crois que là, il y a une tradition de création d'un modèle de vie, en quelque sorte. Nous le considérions, je crois, les Italiens autant que les Belges, comme quelque chose d'un peu rétrograde. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi raconter la vie de ce général qui, finalement, est scandé par une série de guerres et d'actions militaires? Mais je crois que là, il y a véritablement, et c'est une tradition dans ce journal, il y a véritablement une préoccupation d'instituer un exemple, un modèle, et de valoriser en quelque sorte l'engagement de l'individu, du citoyen, dans quelque chose qui est le bien commun, ou ce qu'on entend être le bien commun. Je trouve que cette tradition, par exemple, manque chez nous. Il n'y a plus tellement ce moment d'émulation, d'imitation, disons, de modèle que nous avons. Et si je devais me limiter à la situation italienne, pour le moment, ce qui est très répandu, c'est le modèle, par contre, du fourbe, de celui qui arrive à détourner les lois, qui s'enrichit, même s'il doit passer au-dessus des règles communes. Donc, parfois, il y a ça, mais je crois que nos sociétés devraient être attentives au problème de l'imitation d'un certain nombre de modèles positifs. Et ceci pourrait, en quelque sorte, corriger le problème que vous soulignez de la fatigue que comporte l'engagement, puisqu'il y aurait alors une motivation perpétuelle qui se créerait. Hein. Guicciardini, qui est l'auteur dont je m'occupe de plus près, presque tous les jours, disait que l'ambition est une force positive. Nous ne devons pas nécessairement voir ça comme quelque chose de négatif, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est plutôt la volonté d'atteindre des honneurs publics, mais qui soient des honneurs comme récompense à quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement individuel pour le bien de la collectivité. Et donc, je trouve que si on arrivait à instaurer ce ressort qui est dénommé ambizione par Guicciardini, on pourrait subvenir au problème de la courte durée du vrai engagement.
Je remercie encore Madame Moreno, je vous remercie pour votre présence.